Vous êtes sur RTL.
Il est 10h. On retrouve le journal de Yann Bouchery. Bonjour Yann.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La réunion de la dernière chance pour sauver de la faillite le voyagiste Thomas Cook. 600 000 touristes patientent fébrilement à travers le monde. Dans l'actualité aussi, une tribune pour défendre l'aide médicale d'État. 800 médecins ont pris la plume, dossier ultra sensible qui doit être débattu dans une semaine au Parlement. Attention, si vous vous déplacez aujourd'hui dans la capitale, c'est la 5e édition de la journée sans voiture à Paris. Un dimanche pour profiter encore des journées du patrimoine. Dans le Vaucluse, l'abbaye de Sénanque est presque sauvé grâce au loto qui va contribuer au financement des travaux de rénovation. Et puis les sports et le football, l'affiche Lyon-PSG ce soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1. La météo avec vous, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
L'heure est à la pluie sur tout le pays.
Ah, c'est un changement de temps à partir d'aujourd'hui avec une perturbation atlantique qui arrive ce matin qui donne de la pluie sur la moitié ouest du pays. Et cette dégradation pluvieuse va progresser cet après-midi vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre et un petit peu plus tard dans la journée vers les frontières de l'Est. Localement, les pluies seront soutenues en particulier cet après-midi sur la Bourgogne, la Franche-Comté, le Massif central. Et puis nous avons toujours des remontées instables en Méditerranée, donc un ciel qui reste très nuageux et quelques averses à caractère orageux et des orages parfois localement forts. Les températures après cette dégradation pluvieuse, eh bien elles vont baisser cet après-midi avec seulement 17 degrés à Brest, 21 degrés au Havre comme à Bordeaux, 22 à Biarritz, 23 à Paris et Strasbourg, 25 à Nancy et jusqu'à 28 degrés à Bastia.
Merci Patricia.
RTL, le 10h avec Yann Bouchery.
Le compte à rebours a donc commencé pour Thomas Cook qui tente d'échapper à une faillite retentissante. Le voyagiste britannique doit trouver en urgence 227 millions d'euros. Les salariés sont évidemment extrêmement inquiets et à l'image de l'un d'entre eux, Manuel Cortés, ils en appellent au gouvernement de Sa Majesté.
Le gouvernement n'est pas dans une position délicate. Le choix qu'il a est de dépenser 600 millions pour rapatrier les gens ou 200 millions pour sauver les emplois de 9000 personnes. Ce n'est pas une position très difficile. Et n'oublions pas que les vacances sont un progrès social. Et franchement, le gouvernement a dépensé des millions d'argent public pour sauver les banques. Je pense que ce serait mieux s'il sauvait une entreprise de tourisme et s'assurait que les Britanniques puissent continuer à profiter de leurs vacances.
Alors, trouver les fonds nécessaires à la poursuite de l'activité, c'est l'objet d'une réunion actuellement entre actionnaires et créanciers avant un conseil d'administration cet après-midi. Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Il s'agit de sauver le plus vieux tour opérateur au monde.
Oui, créé en 1841, il y a 178 ans, Thomas Cook, c'est l'inventeur du voyage organisé. Mais l'aventure va peut-être s'arrêter là. Les dettes du voyagiste s'accumulent depuis bientôt 10 ans. Et l'entrée récente au capital du groupe chinois Fosun, propriétaire du Club Med, ne suffit pas. Thomas Cook est contraint aujourd'hui de verser un quart de ce qu'il touche sur un billet ou un séjour à ses créanciers. Si le groupe ne trouve pas les financements nécessaires, il tombera en faillite. Il lui faudra alors rapatrier immédiatement 600 000 touristes éparpillés dans le monde entier. Une opération gigantesque qui coûterait plusieurs milliards d'euros. Parmi ses vacanciers, il y a aujourd'hui 150 000 Britanniques. Pour le Royaume-Uni, faire revenir autant de touristes serait l'opération la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait affréter des avions et des compagnies aériennes ont d'ailleurs déjà été contactées. Si l'entreprise fait faillite, ce serait aussi des avions cloués au sol, des agences de voyage fermées. Le groupe possède encore 200 hôtels et une centaine d'avions. Thomas Cook emploie aujourd'hui dans le monde 22 000 salariés. La pétition qui circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux pour sauver Thomas Cook a déjà recueilli 35 000 signatures.
Merci Armelle Lévy pour toutes ces précisions. Dans l'Hexagone, le président d'XL Airways appelle de son côté Air France à la rescousse. Dans le journal du dimanche, le PDG de la compagnie en cessation de paiement estime qu'elle peut être un atout pour sa grande sœur sur le low-cost long courrier. XL Airways a besoin de 35 millions d'euros pour se relancer. En bref, on vient de l'apprendre, deux mineurs ont été placés en garde à vue à Marseille après la rixe qui a coûté la vie à un adolescent hier après-midi dans un quartier populaire de la cité phocéenne. Le jeune garçon de 15 ans avait été tué à l'arme blanche. RTL, 10h et 3 minutes à une semaine du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Le sujet de l'aide médicale d'État déchaîne véritablement les passions. 800 médecins ont signé une tribune pour défendre l'AME qui permet l'accès aux soins à plus de 300 000 immigrés en situation irrégulière et dont le budget de 900 millions pourrait être raboté. Laure Domingeon est médecin généraliste et signataire de cet appel.
Ça représenterait un risque pour la population parce que ces patients-là ne puissent pas avoir accès à une santé de qualité et une santé de tous les jours. L'AME, c'est vraiment en plus pour les patients sans papier. Il faut vraiment le tenir en compte. Ça représente du coup très peu de bénéficiaires. Ça représente vraiment une part minime sur le budget global de l'assurance maladie à l'année. Le fait que ces patients soient traités de manière tardive, potentiellement si c'est des maladies contagieuses, ça concerne tout le monde. J'ai signé cette tribune parce que c'est une population qui est déjà ultra précaire, qui n'a déjà pas les moyens financiers de se soigner. Modifier encore l'AME telle qu'elle est maintenant, ça entraînerait de renforcer les inégalités sociales d'accès aux soins, d'augmenter du coup l'afflux de ces patients vers les structures hospitalières qui sont déjà saturées, un risque de recours très tardif pour des pathologies du coup évoluées et potentiellement plus graves, donc forcément un surcoût en termes de traitement des pathologies. Et puis si derrière il y a des opérations nécessaires, d'autres examens coûteux, bah forcément, peut-être que si la maladie avait été prise à temps, on n'en serait pas allé jusque-là, quoi.
Laure Domajon, médecin généraliste et signataire de la tribune au micro RTL de Pierre Collat. Sur ce dossier toujours, Valérie Pécresse prend aussi position. Dans une interview au JDD ce matin, elle estime qu'il faut poursuivre l'AME, mais la restreindre au seul panier de soins nécessaires, comme une maladie grave, un virus ou une urgence sanitaire. Selon la présidente de la région Île-de-France, les bénéficiaires sont couverts à 100%, ce qui est injuste pour les classes moyennes qui paient de plus en plus cher leur mutuelle. Selon elle, cela occasionne aussi des visas de tourisme détournés de leur objet. Fin de citation. On le voit, le débat s'annonce tumultueux dans l'hémicycle. Que préconise précisément le gouvernement ? Benjamin Sportouche, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous poserez la question à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités sera votre invitée dans le grand jury RTL Le Figaro LCI.
Oui, l'aide médicale d'État, c'est l'un des sujets brûlants sur le bureau d'Agnès Buzyn. Alors comment va-t-elle trancher cette médecin de formation entre la droite qui veut, vous le disiez, une restriction de l'aide médicale d'État et ses 800 médecins qui signent aujourd'hui une tribune dans le JDD? Ça peut être un débat cornélien pour elle. Et Agnès Buzyn doit aussi gérer la crise des urgences qui n'en finit pas et aussi des questions de santé du quotidien. Par exemple, faut-il ou non interdire le vapotage comme vient de le faire l'Inde ou certains États américains? Et puis bien sûr, à partir de mardi, ce sera son baptême du feu avec la loi bioéthique à l'Assemblée et la PMA pour toutes les femmes. Emmanuel Macron a parlé du texte de tous les dangers, c'était en début de semaine. Du lourd donc pour Agnès Buzyn, surtout si on y ajoute le dossier des retraites. Il y a encore eu des manifestations hier dans la rue, il y en aura la semaine qui s'annonce. Avec ce très large portefeuille, Agnès Buzyn fait presque figure, Yann, de Premier ministre bis. Ce sera donc son grand oral à nouveau à partir de midi et je vous attends tous.
Joli programme, effectivement. Merci Benjamin Sportouche. Dans un peu moins d'une heure maintenant, les véhicules à moteur seront indésirables dans la capitale. La mairie de Paris organise en effet la 5e édition de sa journée sans voiture. Et Virginie Garin, il y aura très peu de passe-droits.
Oui, de 11h à 18h seront donc interdits tous les véhicules à moteur, voitures, camions, deux roues, même les voitures électriques. Il y aura des dérogations. Pourront rouler les véhicules de secours, de pompiers, de police, les taxis et les VTC, sauf dans les 4 premiers arrondissements. Là, pas de VTC, uniquement des taxis, et ils devront rouler à 20 km/h. Les riverains pourront entrer chez eux en voiture, à condition d'avoir sur eux un justificatif de domicile. L'interdiction sera dans tout Paris, sauf sur le périphérique, mais quelques bretelles d'accès seront fermées, attention. Alors, près d'un millier d'agents de la ville et de policiers seront déployés pour faire des contrôles. Les transports en commun fonctionneront comme un dimanche normal, ils seront payants, même tarif que d'habitude. Quant aux bus, ils circuleront, mais il va falloir un peu plus de temps, car ils ne devront pas dépasser les 30 km/h.
Et les contrevenants risquent une amende de 135 €. Il faut le savoir, la journée sans voiture s'applique aussi aujourd'hui à Aubervilliers, Bobigny ou encore Les Lilas. Une pause dans cette édition avant d'évoquer les journées du patrimoine et l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse, sans oublier Lyon-PSG en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Tout de suite.
RTL, le 10h avec Yann Bouchery.
10h09 sur RTL. Les journées du patrimoine se poursuivent aujourd'hui un peu partout en France et leur succès ne se dément pas année après année. Cette passion pour les vieilles pierres a aussi permis, grâce au loto du patrimoine, de rénover plusieurs monuments emblématiques. C'est le cas de l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse. L'édifice construit au 12e siècle et qui abrite une demi-douzaine de moines cisterciens menaçait de s'effondrer. Il a reçu hier un chèque de 300 000 €. Hugo Hamelin, les prêtres ne regrettent pas ces dons qui ne viennent pas forcément des fidèles.
C'est vrai, il n'y a pas eu débat entre les moines, c'est logique, puisqu'ils ne peuvent parler qu'un seul jour par semaine, en l'occurrence le dimanche. Deux types de jeux ont donc été mis en place, le tirage du loto en juillet dernier et des jeux de grattage à différents prix. Sur chacun de ces jeux, un petit pourcentage a été prélevé pour soutenir le patrimoine, comme l'explique Marc Lobert, directeur régional de la Française des Jeux.
Pour entrer dans les éléments techniques, les jeux de grattage aux environs de entre 10 et 16% donc justement de la valeur du jeu qui est reversée justement à la mission du patrimoine. Et pour le tirage, c'est aux alentours de 3-4%, je crois, de mémoire.
Résultat, un chèque de 300 000 euros remis aux moines hier, 15% du montant des travaux et un soulagement pour le père Jean-Marie.
Nos remerciements s'adressent aussi à monsieur Stéphane Bern, qui nous a soutenus avec un zèle non démenti.
Il y a comme une antinomie entre vie monastique et les jeux, c'est évident. Mais on peut se servir des jeux pour un bien supérieur. Tout dépend de la finalité pour laquelle on l'emploie.
Et 70 000 visiteurs annuels ravis, ça n'a pas de prix.
Le reportage à Gordes dans le Vaucluse d'Hugo Hamelin pour RTL. Les sports à présent et la Coupe du Monde de rugby. L'Irlande affronte l'Écosse en ce moment et ce sont les Irlandais qui mènent 12 à 3. Un peu plus tôt, l'Italie a dominé la Namibie 47 à 22. Et puis à suivre à 12h15, Angleterre-Tonga dans le même groupe que le 15 de France. La mauvaise nouvelle pour les tricolores est venue de Wesley Fofana. Forfait pour le reste du mondial. Le Clermontois est aussi remplacé dans le groupe par le jeune Lyonnais Pierre-Louis Barassi, appelé pour la première fois en bleu. Tout va bien en revanche pour l'équipe de France de volleyball. Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro en dominant la Finlande 3-7-0 hier soir à Nantes. Quart de finale à venir mardi contre l'Italie ou la Turquie. En football, une affiche qui fait saliver pour la clôture de la 6e journée de Ligue 1. Ce soir, Lyon accueille le PSG à 21h. Paris qui arrive tout auréolé de sa démonstration face au Real Madrid en Ligue des Champions, Philippe Sainfourche.
Oui, le coup de tonnerre du Parc des Princes n'a échappé à personne et surtout pas à Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais forcément impressionné.
J'ai regardé le match, mais dire que ça va être compliqué, voilà, c'est pas sorcier. On connaît l'équipe du PSG, on sait que c'est une très bonne équipe et que ça va pas être facile, mais c'était deux matchs différents, dans une compétition différente. Et c'est à nous de travailler sur le terrain et de tenter le tout pour le tout pour amener 3 points.
Avec déjà 4 points d'avance sur son adversaire d'un soir, avant le coup d'envoi, le PSG de Thomas Tuchel peut enfoncer le clou dès la 6e journée de championnat, en surfant sur l'euphorie de la Ligue des Champions qui a redonné le sourire et la confiance à tout un vestiaire.
La victoire contre Real Madrid et l'ambiance, oui, ça, une victoire comme ça, dans cette façon, c'est beaucoup, c'est clair. Mais c'est passé et maintenant c'est le défi de remontrer encore, ça c'est le sport. C'est comme ça dans un club comme PSG, c'est normal.
Avec une motivation supplémentaire, corriger une statistique qui fait tâche au PSG, battu 3 fois lors des 4 dernières saisons en terre lyonnaise.
Lyon PSG à 21h à vivre sur RTL dans Soir de Ligue 1. Les résultats de la soirée d'hier, Marseille accroché par Montpellier 1-0, victoire de Nice sur Dijon 2-1, de Nîmes 1-0 devant Toulouse et d'Amiens à Metz 2-1, 0-0 entre Reims et Monaco, 2-2 entre Bordeaux et Brest. À la Formule 1 et le Grand Prix de Singapour, le monégasque Charles Leclerc partira en pole position tout à l'heure à 14h10. Les courses cet après-midi à Vincennes, les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 16, le 3, le 11, le 5, le 12, le 13, le 7 et la dernière minute, le numéro 11.